Vous écoutez On lit pour vous.
Réensauvager le monde. Un texte de Simon Chabot, paru le 20 août 2023 dans La Presse. La perte du sauvage est telle sur Terre que la protection des écosystèmes encore intacts ne suffira pas à mettre un terme à l'effondrement de la biodiversité. Pour y arriver, il faudra aussi restaurer 30 % des milieux déjà dégradés d'ici 2030, ont convenu les 196 pays signataires du cadre mondial de la biodiversité. Au Québec, les efforts de restauration progressent, mais jusqu'à quel point peut-on réensauvager le monde? Visite et discussion. Le retour de la nature. Les deux bottes de caoutchouc bien plantées dans le sol boueux, le biologiste Alexandre Nicole cache mal sa fierté au milieu de la prairie qui fleurit dans l'île du Mitan, au cœur du Saint-Laurent, en amont du lac Saint-Pierre. C'est un terrain de jeu incroyable, dit celui qui travaille ici à temps partiel depuis 10 ans. Rien n'y paraît, sinon peut-être une grange ou deux dans le paysage, mais jusqu'en 2020, des agriculteurs faisaient encore pousser du maïs et du soya sur ces terres. Or, dans le cadre d'une opération pour rétablir la population de perches chaudes du lac Saint-Pierre, victime notamment des pesticides utilisés pour les grandes cultures, la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, SCIRBI, s'est donné pour mission de réensauvager les îles du Mitan et au Castor. Depuis, 102 hectares de terres riches, inondées annuellement, sont devenus des prairies. Une renaturalisation dont les premiers effets ont semblé presque instantanés. Dès les étés suivants les semis de plantes variées, dont des graminées et du trèfle, la SCIRBI a observé sur place des nids de sarcelles à ailes bleues et de goglus des prés, une espèce menacée. Les populations d'insectes et de rongeurs ont aussi explosé. Des oiseaux de proie ont suivi. Ce jour-là, un jeune pygargue à tête blanche viendra d'ailleurs narguer en plein ciel un urubu à tête rouge. C'est encourageant, ça vaut la peine, se réjouit Alexandre Nicole, pour qui la plaine du Saint-Laurent est l'un des plus beaux jardins du monde. Un jardin riche en biodiversité, malheureusement un peu trop exploité, ajoute-t-il, devant les cheminées des usines de Sorel-Tracy qui barrent l'horizon. Pour accroître la biodiversité des îles, la SCIRBI a aussi planté plus de 30 000 arbres sur une vingtaine d'hectares. Le but? Relier les rares lisières boisées pour attirer des espèces d'oiseaux forestiers comme la griffe des bois ou le cardinal à poitrine rose. Une démarche dont le succès se révélera à mesure que pousseront les arbres. Quant à la perche chaude, qui pond ses œufs le long des tiges d'herbes ou d'arbustes pendant la crue printanière, elle n'a pas encore montré de signes robustes de rétablissement. Il y a des choses qui sont plus rapides, d'autres qui prennent du temps, conclut le biologiste. On ne peut pas rétablir tous les liens qui mettent des millénaires à se former dans un écosystème du jour au lendemain. Le temps d'agir. La biodiversité, soit la diversité au sein des espèces, entre les espèces et des écosystèmes, est essentielle au bien-être de l'homme et à la santé de la planète, lit-on dans le cadre mondial de la biodiversité adopté à Montréal en décembre 2022. L'humanité dépend de la biodiversité pour son alimentation, ses médicaments, son énergie, la pureté de l'air et de l'eau, rappelle le document. Or, constatent les 196 pays signataires du cadre, la biodiversité décline plus rapidement que jamais. Si aucune mesure n'est prise, annonce le texte, on assistera à une nouvelle accélération du taux mondial d'extinction des espèces qui est déjà au moins 10 à 100 fois plus élevé que la moyenne des 10 derniers millions d'années. Le cadre mondial de la biodiversité commande des actions urgentes. D'ici 2030, au moins 30% des zones terrestres, aquatiques, côtières et marines du monde doivent être effectivement conservées. Mais il reste trop peu d'écosystèmes intacts. Pour renverser l'effondrement de la biodiversité, au moins 30% des écosystèmes déjà dégradés doivent faire l'objet d'une restauration effective, stipule le cadre. Le rétablissement de la biodiversité ne peut pas reposer uniquement sur la conservation, confirme James Snyder, vice-président du département Sciences, Savoir et Innovation pour la branche canadienne du Fonds mondial pour la nature, WWF-Canada. Il est trop tard pour cela. Même si les deux gouvernements ont salué l'adoption du cadre mondial de la biodiversité, ni Ottawa ni Québec n'ont pour l'instant précisé quels milieux seront restaurés d'ici 2030. Par courriel, Environnement et changement climatique Canada affirme procéder à des travaux pour les identifier, de même que les types d'actions qui seront menées. Le ministère appelle aussi l'engagement de restaurer 19 millions d'hectares dans le cadre du défi de Bonn pris par le gouvernement fédéral pendant la COP15 à Montréal. À l'occasion de cette même conférence, Québec avait annoncé la création de son plan Nature 2030, doté de 650 millions de dollars sur 7 ans. Ce nouvel outil stratégique est présentement en cours de rédaction, nous a fait savoir par écrit une porte-parole du ministère de l'Environnement. Des consultations sont encore prévues, notamment auprès des communautés autochtones et du milieu de la recherche. Vous écoutez « Réensauvager le monde », un texte de Simon Chabot, paru le 20 août 2023 dans La Presse. Des connaissances en croissance. Bonne nouvelle, les connaissances en matière de restauration d'écosystèmes progressent rapidement. Quand j'ai commencé en 1991, personne ne savait comment réintroduire des mousses de sphaigne dans des tourbières, se souvient Lynn Rochefort, professeur du département de phytologie de l'Université Laval. Mes premières expériences au lac Saint-Jean ont été des échecs complets. Ce n'était pas drôle. Les tourbières occupent à peine 3 ou 4 % de la surface de la planète, surtout dans les régions boréales, le Canada abrite le tiers d'entre elles. Or, elles emmagasinent 600 gigatonnes de carbone, ce qui en fait l'écosystème terrestre le plus efficace à cet égard. Avant, on disait tout le temps que le Brésil était responsable de la biodiversité du monde avec l'Amazonie, mais moi, je pense qu'avec ces tourbières, le Canada est responsable de la séquestration du carbone pour la planète, soutient Lynn Rochefort. Celle-ci a appris de ses erreurs. Elle est même devenue une sommité mondiale de la restauration des tourbières. Maintenant, dit-elle, 2 ou 3 ans après une intervention, une tourbière va recommencer à filtrer l'eau et à servir d'habitat pour une multitude d'espèces, dont des orchidées et des libellules. Certes, une épaisse couche de tourbe mettra des milliers d'années à se former à nouveau, mais l'écosystème retrouve vite sa fonction de puits de carbone, ce qui est notre but principal, précise Mme Rochefort. Bien sûr, les capacités de restauration dépendent toujours du degré de dégradation. Pour les tourbières, par exemple, certains procédés d'extraction avec des eaux salines dans les mines à ciel ouvert sont fatales pour l'écosystème. Or, même quand tout va bien, la nature réserve parfois de mauvaises surprises. Dans les îles de Berthier, le retour en masse des rongeurs et des cerfs a été mortel pour nombre de chênes, d'érables, de noyers et de micocouilliers fraîchement plantés, qui ont servi de nourriture aux nouveaux insulaires. Quelques milliers de jeunes saules ont aussi été tués par une inondation majeure suivie d'une sécheresse en 2020. Recréer la nature, c'est un gros contrat, reconnaît Alexandre Nicole. Moins 86 %. Source, Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles. La population de femelles reproductrices de perchaudes du lac Saint-Pierre a chuté de 86 % entre 1986 et 2003, passant de 4,4 millions à 600 000. L'adoption d'un moratoire complet sur la pêche de cette espèce en 2012 n'a pas suffi à rétablir cette population. Le moratoire a été reconduit en 2017. 1 million, source, cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal. À l'heure actuelle, environ 1 million d'espèces d'animaux ou de plantes, soit une sur quatre, sont menacées d'extinction sur Terre. Juste assez sauvage. Si les biologistes savent mieux s'y prendre pour donner un coup de pouce à la nature grâce à des projets pilotes et de recherches en restauration, jusqu'ici, ces travaux ont été trop rares, croit Louise Graton, présidente du CA de Nature Québec. Beaucoup d'écosystèmes protégés ou restaurés reste trop isolé pour soutenir la biodiversité, précise la cofondatrice de Corridor Appalachien, un organisme qui souhaite notamment augmenter la connectivité entre les milieux naturels de l'extrême sud du Québec. Dans certaines MRC de la Montérégie, comme celle de Roussillon autour de Châteauguay par exemple, à peine 8% des milieux forestiers sont encore intacts. Il faudrait pourtant préserver entre 50 et 60% de tous les milieux pour que les systèmes qui entretiennent la vie sur Terre se maintiennent, dit-elle en citant une étude publiée au printemps 2023 dernier dans Nature. Nul doute que le réensauvagement du monde à plus grande échelle est crucial donc, mais à quel point est-il possible? D'emblée, un constat s'impose. Effacer complètement les traces de l'activité humaine est utopique. La pollution a déjà atteint l'Antarctique, un continent pourtant inhabité. En 2020, par exemple, une carotte de glace prélevée là-bas contenait 96 particules de microplastique provenant de 14 types de polymères. On a vraiment modifié tous les écosystèmes, se désole Louise Graton. Les polluants perpétuels, les perfluorés, et les microplastiques, on est pris avec, ils vont rester là. Et on commence à peine à mesurer leur impact. Viser un retour à l'état sauvage absolu ressemble donc à une fausse bonne idée. D'ailleurs, comment déterminer cet état pour un écosystème dans un monde qui change constamment? Aussi, un milieu qui retrouverait ses conditions d'il y a 100 ans, serait-il encore viable avec le réchauffement climatique? Mais rien de tout ça ne justifie l'inaction. Malgré la pollution, beaucoup d'écosystèmes continuent de fonctionner, souligne la consultante en environnement active depuis plus de 40 ans. Vous écoutez « Réensauvager le monde », un texte de Simon Chabot, paru le 20 août 2023 dans La Presse. Vu l'état de la planète, la priorité devrait donc être de redonner leurs fonctions au plus grand nombre d'écosystèmes possibles, juge Louise Graton. De manière qu'ils créent à nouveau de la biodiversité en remplissant leur rôle dans la filtration de l'eau, la pollinisation, la production de nourriture et de ressources, la régulation du climat, etc. Bref, qu'ils redeviennent juste assez sauvages. Voilà un objectif beaucoup plus réaliste. Je suis assez confiante, on peut y arriver, observe-t-elle. Bien sûr, il y a une part d'incertitude, mais il faut vivre avec. On n'a pas le loisir de ne pas essayer. Attention toutefois, prévient Louise Graton, de miser sur des succès de restauration pour s'autoriser la destruction de milieux à peu près intacts, sous prétexte qu'ils seront recréés ailleurs. Là, ça ne marche pas. Il faut un peu d'humilité par rapport à ce qu'on peut faire, lance-t-elle. On n'a pas encore prouvé qu'on était capable de restaurer des milieux pour qu'ils aient vraiment toutes les fonctionnalités d'un écosystème, selon Louise Graton. Une tâche qui reste colossale. Mais alors, par où commencer? Dans ses cibles, le cadre Kunming Montréal insiste sur la protection et la restauration de zones d'une grande importance en matière de biodiversité. Une forêt tempérée abrite davantage de vie qu'une région polaire, par exemple. Au Canada, sans surprise, c'est dans le sud du pays que se trouvent les milieux les plus riches. Les efforts de restauration devraient donc s'y concentrer, conclut une étude publiée le printemps dernier dans la revue Conservation, Science and Practice. Le biologiste James Snyder, de la section canadienne du Fonds mondial pour la nature, WWF-Canada, a co-signé l'étude. Malgré l'agriculture intensive très répandue dans les basses terres du Saint-Laurent, il y voit de belles occasions de restauration. Selon l'étude, c'est même une des régions du pays où les efforts de restauration donneraient les meilleurs résultats. Avec des bandes riveraines où poussent arbres, arbustes et autres plantes pérennes, les agriculteurs peuvent adopter des pratiques de gestion bénéfiques pour l'environnement, la qualité de l'eau, les oiseaux et d'autres espèces, dit-il. Certaines terres moins productives pourraient aussi être reboisées afin de créer de nouveaux habitats. Au Québec, la Commission de protection des terres agricoles mène d'ailleurs actuellement une réflexion sur l'avenir des terres arables. Louise Gratton espère que l'exercice mènera à la création de davantage d'espaces plus naturels dans les zones cultivées, parce qu'il est démontré qu'il procure des bénéfices à l'agriculture. En attirant plus d'oiseaux insectivores grâce à des bandes riveraines élargies, certains agriculteurs ont par exemple eu besoin de moins de produits chimiques pour protéger leurs récoltes. Comme dans la plupart des endroits habités du monde, la restauration s'annonce néanmoins difficile dans le sud du Québec. Il est important que nous soyons de plus en plus conscients de l'ampleur de la tâche qui nous attend. Si le Canada est sérieux quand il promet de restaurer 30 % des écosystèmes, on parle de millions d'hectares, prévient James Snyder. Restaurer, faut-il le rappeler, c'est cher. Ça prend beaucoup d'espace et surtout du temps. Une forêt ancienne avec tous ses micro-habitats et ses couches de végétation, on peut la couper en quelques heures, mais elle prend 300 ou 400 ans à revenir, rappelle Louise Gratton. À condition qu'un incendie de forêt ne vienne pas tout anéantir avant que l'écosystème soit assez résilient pour se rétablir de lui-même. Et restaurer 30 % des écosystèmes dégradés d'ici 2030, c'est plus ou moins réalisable, admet Mme Gratton, mais ce genre de cible concrète a le mérite de nous atteler à la tâche, ajoute celle qui, loin d'être découragée, se dit inspirée par le fait d'entreprendre des actions qui auront des effets dans un avenir souvent éloigné. Peu importe où s'en va la planète, l'idée, c'est d'avoir une vision qui va au-delà de notre propre vie, dit-elle. Ça me donne espoir. C'était « Réensauvager le monde », un texte de Simon Chabot, paru le 20 août 2023 dans La Presse.
En tête de volée. Un texte de Denise Ashruby, paru le 21 août 2023 dans La Presse, d'abord paru dans le New York Times. À Elsingen, en Allemagne, Johannes Fritz, un biologiste autrichien hors du commun, devait à nouveau trouver un plan pour empêcher l'extinction de ces oiseaux rares et bien-aimés. Pour survivre à l'hiver européen, l'ibis chauve, qui avait autrefois entièrement disparu à l'état sauvage sur le continent, doit migrer vers le sud pour l'hiver en passant par les Alpes avant que les montagnes ne deviennent infranchissables. Mais les changements climatiques ont retardé le moment où les oiseaux commencent à migrer et ils atteignent maintenant les montagnes trop tard pour franchir les sommets, ce qui les enferme dans un piège mortel de glace. « Dans 2 ou 3 ans, ils auraient à nouveau disparu », a déclaré M. Fritz. Déterminé à les sauver, M. Fritz a décidé d'enseigner aux oiseaux une nouvelle route de migration plus sûre en les guidant lui-même à bord d'un petit avion. Il était convaincu de pouvoir mener à bien ce projet audacieux et non conventionnel, car il l'avait déjà fait auparavant. Lorsque M. Fritz est né, il y a 56 ans, l'ibis chauve, un oiseau noir de la taille d'une oie, à la tête chauve et au bec énorme, n'existait en Europe qu'en captivité. Il y a 400 ans, les Européens ont probablement dévoré les derniers ibis chauves. Mais M. Fritz a passé sa carrière à réintroduire ces oiseaux dans la nature et une partie essentielle de leur éducation a consisté à enseigner aux jeunes la voie de migration qu'ils suivront à l'âge adulte. Johannes Fritz a appris à voler en modifiant un avion ultra-léger pour qu'il puisse voler à des vitesses suffisamment lentes pour que ses élèves ailés puissent suivre. Il était le seul à nourrir, aimer et câliner ses jeunes élèves depuis qu'ils n'avaient que quelques jours, et les ibis suivaient avidement leur professeur, qui pilotait justement une machine assez bruyante. En 2004, 3 ans après quelques expériences difficiles, M. Fritz a conduit la première volée de l'Autriche vers l'Italie et a depuis dirigé 15 migrations de ce type. Au cours de cette période, il a réappris à vivre à 277 jeunes ibis, dont beaucoup ont ensuite commencé à transmettre la route à leurs propres petits. De nouveaux défis. Mais la route qu'il a enseignée aux ibis à l'origine n'est plus viable. Avec les changements climatiques qui réchauffent la région où les oiseaux passent l'été, au bord du lac de Constance, en Allemagne et en Autriche, ils commencent désormais leur migration à la fin du mois d'octobre plutôt qu'à la fin du mois de septembre, comme c'était le cas il y a seulement 10 ans. En 2022, alors qu'il suivait la progression des oiseaux, M. Fritz a constaté que la neige recouvrait les plumes des ibis et que leur long bec avait du mal à trouver des larves et des vers dans le sol gelé. 3 colonies d'ibis ont tenté à 2 reprises de traverser les montagnes en novembre, mais ont échoué chaque fois. M. Fritz a émis l'hypothèse que les flux d'air chaud ascendant étaient trop faibles en novembre pour permettre aux oiseaux de s'élever facilement au-dessus des montagnes. M. Fritz et son équipe ont attiré des animaux voraces avec des vers de farine, les ont enfermés dans des caisses et les ont conduits à travers les Alpes. Mais M. Fritz reconnaît qu'un service d'autocar privé n'est pas une solution durable et il a donc eu l'idée de montrer aux oiseaux une nouvelle voie de migration. Cet été, au lac de Constance, les hommes et les oiseaux ont suivi une école de pilotage, s'entraînant au vol accompagné pour leur voyage épique. D'ici au mois d'octobre, ils espèrent atteindre la côte atlantique sud de l'Espagne, près de Cadix, où les oiseaux pourraient passer l'hiver en toute tranquillité. En contournant les imposantes Alpes, le nouvel itinéraire est d'environ 4000 km, soit 3 fois plus long que le précédent, qui allait directement au sud de la Toscane. Les oiseaux volant à une vitesse maximale de 40 km/h, le voyage devrait durer environ 6 semaines, contre 2 pour atteindre la Toscane. Vous écoutez « En tête de volée », un texte de Denise Ashruby, paru le 21 août 2023 dans la presse, d'abord paru dans le New York Times. Un point noir. Ayant grandi dans une ferme de montagne au Tyrol, M. Fritz aimait observer comment les vaches et les chevaux interagissaient plus librement entre eux, en se bécotant et en jouant, une fois qu'ils avaient été conduits hors de l'étable et dans les pâturages. Ses observations de jeunesse ont nourri son rêve de devenir biologiste. À 20 ans, il s'est inscrit à un programme qui lui permettait à terme d'étudier la biologie à l'université, mais il a d'abord dû suivre une formation de chasseur de l'État, responsable de contrôler les populations animales locales. Sur un terrain alpin accidenté, il surveille la santé des troupeaux de chamois et de cerfs, tout en refusant de les tuer. Une seule fois, en raison de l'insistance de son chef, il a appuyé sur la gâchette. Un faon orphelin qui serait mort, raconte M. Fritz, qui qualifie cette fusillade de « point noir » dans sa vie professionnelle. Il a 24 ans lorsqu'il commence enfin à étudier dans les universités de Vienne et d'Innsbruck. Il a ensuite décroché un emploi au centre de recherche Konrad Lorenz en Autriche, où il a élevé des corbeaux à la main et appris aux oies cendrées à ouvrir des boîtes pendant qu'il préparait son doctorat. Travailler en étroite collaboration avec des animaux vivant en liberté était exactement ce dont il avait rêvé dans son enfance. En 1997, un zoo a offert au centre de recherche ses premiers poussins d'ibis chauves. loin d'être aussi docile que les oies et loin des corbeaux super intelligents, les ibis ont frustré la plupart des scientifiques. Mais M. Fritz est tombé sous le charme. Lorsque les gens plaisantent sur le fait que leur tête rouge et ridée et leur mohawk noir les placent dans la course à l'oiseau le plus laid du monde, ils mettent en avant leur charisme, leur grégarité et leur affection. Il sait ce que les poussins adorent manger, des souris déchiquetées et du cœur de bœuf, 8 fois par jour, et les oiseaux curieux aiment planter leur long bec délicatement dans ses oreilles. Le guide Fritz. Après avoir relâché les ibis dans la nature, il y a plus de 20 ans, M. Fritz a appris que le fait d'avoir passé des générations dans un environnement zoologique confiné n'avait pas atténué leur volonté de migrer, même si cela les avait laissés mal informés sur le plan géographique. Dans leur quête du sud, certains se sont retrouvés en Russie. Ce dont les ibis avaient besoin, pensait M. Fritz, c'était d'un guide. À cette époque, Fly Away Home a connu un grand succès auprès des biologistes, explique M. Fritz, rappelant le film de 1996 dans lequel les personnages interprétés par Jeff Daniels et Anna Paquin dirigent la migration d'oies du Canada orpheline à bord d'un deltaplane. Lorsque M. Fritz a annoncé qu'il ferait de même avec les ibis, il a d'abord été ridiculisé. Mais après des années d'essais et d'erreurs, il a réussi. Il a même appris à voler comme un oiseau, dit-il, s'élevant avec facilité. Aujourd'hui, il donne la priorité à la sécurité, en partie parce qu'il n'est plus le seul à prendre des risques. Les ibis sont désormais élevés par 2 assistantes de recherche qui font office de mères nourricières humaines, l'une volant à l'arrière de l'avion de M. Fritz, l'autre avec un second pilote. Par une matinée chaude sur leur site de camping du lac de Constance, M. Fritz referme sa combinaison vert olive et saute dans son avion, se retournant pour vérifier l'état des 35 ibis et faisant signe à l'une des mères nourricières de s'asseoir sur le siège derrière lui. Alors qu'il s'élève au-dessus de la piste d'atterrissage herbeuse, les oiseaux battent de leurs ailes noires et les suivent de près. Bientôt, ils s'envoleront vers l'ouest en direction de la France, puis vers le sud en direction de la Méditerranée, où ils longeront la côte jusqu'en Andalousie, l'une des régions les plus chaudes et les plus sèches du continent, affrontant en chemin des conditions météorologiques imprévisibles. « Mais les risques inévitables sont nécessaires », a déclaré M. Fritz. « Ce n'est pas tant un travail, a-t-il ajouté, que le but de ma vie. C'était « En tête de voler », un texte de Denise Ashruby paru le 21 août 2023 dans la presse, d'abord paru dans le New York Times.